Gameblogueur, gameblogueuse, bien le bonjour, bienvenue dans le 178e podcast, un podcast dédié à la saga Tomb Raider. Et oui, effectivement, Tomb Raider Trilogy vient de sortir il y a quelques jours maintenant. Il compile trois aventures majeures de la série des Tomb Raider. Tomb Raider Underworld pour le plus récent, mais surtout Tomb Raider Anniversary et aussi Tomb Raider Legend. Et pour parler de Lara Croft et plus globalement de toute la série de cette Indiana Jones au féminin, eh bien nous avons invité l'homme qui la connaît le mieux, le grand Manitou des Tomb Raider et des Lara Croft, Christophe Delpierre. Ça va bien, Chris?
Ça va très bien, merci beaucoup.
Alors Chris, Lara, tu la suis maintenant depuis une petite quinzaine d'années quelque part presque.
Ouais, j'ai commencé à jouer avec le Tomb Raider 2, pas le 1, curieusement, bon, j'y jouais après. Et puis surtout, j'ai fait une collection pour les éditions Atlas il y a quelques temps, là, il y a 2 ans, 2-3 ans.
60 numéros, c'est ça?
Ouais, 60 fascicules, ça n'a pas été toujours de tout repos.
Ouais.
Donc voilà, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais en tout cas, oui, je connais très très bien Lara Croft et Tomb Raider en général, et voilà.
Et bien du coup, avec toi, on va pouvoir ainsi revenir sur toute la série. Aujourd'hui, tu officies dans le magazine Console Plus, mais à l'époque, c'est vrai que nous étions collègues à Joypad et PlayStation Magazine.
Tout à fait.
Et c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses, puisque Tomb Raider a commencé en 1996, on va en parler avec toi, il y a énormément d'anecdotes, vous allez voir pendant ce podcast, on va le découper vraiment en deux temps, une première partie qui va se concentrer vraiment sur les différentes aventures, qu'elles ont apporté, en quoi elles étaient à l'époque, soit des temps forts du jeu vidéo, soit parfois des grosses déceptions, et puis bien sûr, ensuite, toute la partie hors-jeu de Tomb Raider et de Lara Croft avec ses apparitions au cinéma, ses charmantes personnes qui l'ont représentée avec certains attributs particulièrement sexy, et puis beaucoup d'anecdotes aussi. Vous allez voir, Lara Croft est un personnage qui a fait beaucoup parler d'elle et pas forcément qu'au sein du jeu vidéo. Mais pour ça, eh bien, nous avons aussi autour de la table transparente Raon.
Hello.
Et Julo.
Salut.
Et un petit coucou à Emeric, qui est aussi un grand passionné de Tomb Raider, qui aurait dû être avec nous, mais qui malheureusement a eu un petit empêchement. Alors, Chris, on va rentrer dans le vif du sujet. Lara Croft arrive chez nous en novembre 96, quelques temps, une petite exclusivité temporaire de quelques semaines sur Saturn, et puis ensuite sur PlayStation. Mais avant de parler véritablement du jeu, parlons de l'homme, de son créateur, de Toby Gard, celui qui finalement a donné ce trait à cette Lara, cette aventurière anglaise si généreuse.
Donc en fait, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que Core Design, dont on peut dire deux mots rapidement, c'est quand même ceux qui avaient fait Rick Dangerous. Alors ouais. c'est toujours l'ancêtre, entre guillemets, de Tomb Raider pour certaines personnes. C'est vrai que ça repose sur le même concept. Bon, après, c'est beaucoup plus simple, évidemment. Donc ouais, Core Design, d'une boîte anglaise qui a fait Thunder Oak, enfin, des choses sympathiques. Ça n'a jamais été pour moi un grand, grand développeur, mais bon. Et donc Toby Gard chez Core Design qui avait développé un jeu d'aventure avec et qui voulait à tout prix faire un personnage féminin, contrairement au marketing d'Eidos à l'époque, qui voulait à tout prix un personnage masculin parce qu'il pensait que ça se vendrait mieux. Hein, c'est toujours des visionnaires, hein, les marketeux. Et donc voilà, il a tenu bon. Et après il s'est passé ce qui s'est passé, quoi. La chose intéressante, c'est qu'on pouvait pas deviner que Tomb Raider aurait un aussi grand succès. Donc voilà, ça a débarqué, c'est arrivé au bon moment, c'est Toby Gard lui-même qui le dit. On est arrivé au bon moment sur la bonne machine, entre guillemets la PlayStation, hein, pas la Saturn, malheureusement. Et voilà quoi, donc c'était un jeu qui apportait quelque chose qui n'existait pas encore. Et voilà quoi, c'est ça qui est intéressant, donc on va en parler.
Bah, c'est sûr qu'aujourd'hui on regarde ça avec un regard un petit peu amusé, mais réussir à imposer une femme forte dans un jeu vidéo, c'était un véritable exploit finalement à l'époque, à part Samus et Miss Pac-Man, il n'y en avait pas des tonnes.
Ben non, c'est justement ça le truc, on avait fait un podcast sur les femmes dans le jeu vidéo il y a longtemps. Et effectivement, oui.
Podcast 98, je crois.
Il n'y avait pas de femmes fortes dans le jeu vidéo, ce qui a fait aussi que le personnage était intéressant. Tomb Raider, malgré sa difficulté, parce que le jeu était difficile quand même, il ne faut pas se leurrer, intéressait les femmes. C'était un des jeux, je me souviens, je connaissais des filles qui jouaient pas forcément beaucoup aux jeux vidéo, elles aimaient bien jouer avec elles. Alors bon, elles dépassaient pas forcément le Pérou, mais bon, elles jouaient, elles étaient contentes, elles sautaient, elles mouraient, mais bon, c'était une femme et elles s'identifiaient un petit peu. Non, je suis pas du tout misogyne, attends. Le jeu était difficile pour tout le monde. Et donc voilà quoi, effectivement, ils ont eu au niveau du timing et puis du chara-design, le caractère design de Lara Croft est intéressant, même si la toute première Lara Croft au niveau polygonal, on va dire que c'était assez limité.
Oui.
Voilà quoi, c'est
Bah justement, parlons de cette Lara. Alors, il y a beaucoup de rumeurs concernant, parce que on parle de femme forte, on parle de femme qui finalement a permis l'arrivée justement des héroïnes dans le jeu vidéo. Mais à la fois, elle était quand même totalement cliché, ça veut dire que c'était une espèce de grosse bimbo, qui était justement peut-être adoucie par son côté anglais, très sophistiqué et très bien éduqué quelque part. Mais alors, il y a une rumeur qui voudrait que la taille de ses attributs féminins auraient été liés à une sorte de bug ou de problème où ils auraient fait 150% sur ses seins.
Ouais, alors moi j'ai pas eu Toby Gard directement en face de moi, j'avais juste envoyé une interview où j'avais demandé si les proportions exagérées étaient voulues dès le départ. Il m'avait pas parlé du fameux mon doigt a glissé, ça fait 150%, mais il m'a dit qu'en tout cas oui, les proportions dès le départ étaient c'était voulu, voilà. C'est pas, ils ont voulu faire
un côté un peu cartoon aussi,
une femme à forte poitrine entre guillemets, et puis
Tu peux enlever les guillemets quand même.
oui c'est vrai, mais bon, je dis entre guillemets parce que la toute première Lara Croft dans Tomb Raider n'avait pas une si grosse poitrine. En fait, sa poitrine, c'était une. Vous voyez les barres de Toblerone ?
Oui.
Bah, en fait, voilà, c'était ça.
C'était une barre c'était de. Très pointu,
ouais. Ah, c'était très pointu.
C'était, ouais. C'était une barre de Toblerone, en fait. Voilà, il n'y avait pas du tout de. C'était pas bombé ni rien.
Bah, il y avait trois pauvres polygones pour les représenter, quoi.
Bah voilà, c'était ça le problème. Je sais plus. Attends, je crois que j'ai noté le nombre de polygones. Je crois qu'il y a 250 polygones dans la première Lara Croft. Ils sont passés à 470, si je me souviens bien, dans le 2. 5000 dans l'Ange des Ténèbres et 9800 dans Tomb Raider Légende. Bon, après, je les ai pas comptés, mais c'est les chiffres donnés par les développeurs.
Dans un bras de Lara d'aujourd'hui, il y a plus de polygones que dans tout un son corps avant.
C'est ce que j'allais dire, ouais, quasiment dans un doigt. Ouais.
Ouais. Assez flippant. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que si dans les cinématiques, elle arborait une crinière incroyable avec une gigantesque natte d'aventurière, dans le jeu en elle-même, elle avait un petit chignon parce que c'était les limitations techniques de l'époque.
C'était les limitations techniques. Et a priori, c'est aussi une histoire de timing. Ils n'ont pas trop eu le temps d'implémenter ce genre de détails pour la sortie du jeu. Mais c'était prévu dans le character design. Lara Croft a toujours eu les cheveux longs. Donc voilà, ils l'ont implémenté à partir du Tomb Raider 2.
Et alors, puisqu'on parle du jeu à proprement parler, il y a aussi des anecdotes. On se rappelle de pré-versions du jeu dans lequel il y a un personnage, je vais oublier son nom, comment il s'appelle, la personne qu'on voit au début du jeu, qu'on retrouve dans Anniversary, Larson.
Ah, voilà, oui.
Le fameux Larson. Apparemment, il y avait peut-être même un mode deux joueurs où on aurait pu l'incarner.
Ah bah écoute, non, je suis pas au courant de ça. J'ai pas entendu parler de mode de joueur. Moi, j'ai entendu parler du chara-design masculin qui a fait partie des projets, ouais, mais qu'ils ont finalement éliminé. Et c'était toujours la volonté de Toby Gard d'avoir un personnage féminin et pas masculin. Et le personnage a existé, hein, en rough. Il y avait des dessins, mais ils l'ont viré. Ils ont gardé que Lara.
D'accord.
Ce qui reste une bonne décision. Ensuite, pour Larson, oui, ils ont peut-être pensé à un mode de joueur, mais ça n'a pas dû durer très longtemps comme idée, quoi.
Ok. Alors parlons à proprement parler du jeu. Qu'est-ce qui en a fait sa saveur ? Qu'est-ce qui en a fait que véritablement ça a été un carton, puisque ça a initié véritablement la légende de Tomb Raider, qui aujourd'hui maintenant quand même cumule à plus de 35 millions d'exemplaires vendus dans le monde, chaque épisode confondu. Est-ce qu'il intéressant de noter aussi, c'est que pour beaucoup de personnes, Tomb Raider est un phénomène essentiellement européen, alors que finalement pas tant que ça, il n'est clairement pas japonais puisque c'est moins d'un million de ventes en tout, hein, tout épisode confondu. Par contre, entre États-Unis et Europe, c'est très bien réparti, avec une très légère avance d'un million de ventes seulement pour l'Europe. Mais alors, qu'est-ce qui a fait la qualité initiale pour toi de Tomb Raider ? C'était l'aventure, c'était le dépaysement ?
Alors, ce qui a fait la qualité initiale de Tomb Raider, c'est un mix de plusieurs choses. Je pense que le fait qu'on se retrouve avec des environnements en 3D immenses, qu'on n'avait, je crois pas, vu ça avant. Il y avait une ambiance d'aventure assez exceptionnelle aussi. Et dans le premier avait pour moi une qualité, c'est-à-dire qu'il mixait les temps d'exploration où il se passait pas grand-chose, et l'action proprement dite, avec des vrais moments forts. Comme le T-Rex, évidemment, ou le doppelganger à la fin, ou enfin le double de Lara.
Mais même le début, la première rencontre avec l'ours, ou tout premiers ennemis, au départ, on se contente d'explorer. Et puis, il y avait aussi ce souci du rythme avec la musique. La façon dont le jeu abordait la musique était très intéressante. Super,
ouais. Et ce qui était génial dans le premier, c'était ce sentiment de solitude, un petit peu comme ça. On était vraiment tout seul avec Lara dans des cavernes, des endroits très silencieux, etc. Effectivement, dès qu'il y avait. Effectivement, dès le début, je crois que ça commence avec des loups, non ? Avant les ours, l'ours.
Chauve-souris.
C'était des vrais moments de stress dans lesquels l'ambiance changeait complètement, et c'était ce mix qui était vachement bien équilibré en plus dans le premier. Et finalement, c'est ce qui a beaucoup changé dans
le 2. Et puis, les décors étaient magnifiques. Enfin, ouais, quand on se retrouvait avec des statues immenses.
En Égypte.
En Égypte, on plongeait, il y avait des statues sous l'eau. Enfin,
il y avait des super grands plongeons d'ailleurs.
C'était bluffant, quoi. Et puis bon, après, bon, c'est sûr que maintenant, avec le recul, au niveau de la maniabilité, on peut dire que c'était
rigide.
Pour le moins rigide.
Ouais.
Bon, à l'époque où c'est sorti, bon, il fallait s'y faire. Mais une fois qu'on s'y était fait, bon, c'était sympa, quoi. Tu t'accrochais, tu faisais des choses.
Le problème, c'est pas trop que c'était rigide, c'était surtout millimétré, en fait. Ouais. Et c'était ça qui était vraiment pénible, parce que bon, après, les petits sauts de côté, quand tu te battais, ou en arrière, etc., t'arrivais à les prendre en main quand même assez rapidement. Surtout à l'époque, on était habitué aux maniabilités un peu complexes et tout. Mais le fait que ce soit millimétré, qu'il fallait se mettre vraiment tout au bord du précipice avant de sauter pour pouvoir tout juste agripper l'autre côté, etc., ça, c'était surtout ça qui était stressant, je trouve.
Ouais, et puis en même temps, bon, tu prenais l'habitude de marcher, comme ça tu tombais pas, tu reculais d'un coup, et puis hop, t'avançais, t'appuyais sur saut.
C'était mathématique, ouais.
Et c'était alors c'est vrai que c'était du millimètre, mais tu savais que tu pouvais pas te planter. Bon, ça perdait un petit peu de son naturel. D'accord.
Il y avait une animation de ouf aussi à l'époque, hein, quand elle retirait ses flingues sur les côtés, parce qu'il y avait un autolock aussi. C'était pas très très courant à l'époque de pouvoir en troisième personne cibler automatiquement les ennemis.
Ouais, c'était pas mal foutu. Puis les combats, l'air de rien, étaient assez dynamiques, quoi. Tu sautais, tu sautais dans tous les sens. Non, l'idée des pièges, c'était super.
Effectivement, comme l'évoquait Rahan, les musiques ont apporté beaucoup à Tomb Raider. C'est vrai, cette ambiance qui était faite essentiellement de bruitage, et puis tout d'un coup une nappe sonore qui arrivait. On les doit à Nathan McCree qui a œuvré sur les trois premiers épisodes. On parlera ensuite de Peter Connelly qui est arrivé par la suite. Tu penses aussi que ça a joué comme ça dans cette immersion?
Moi je pense que ne serait-ce que le thème principal de Tomb Raider était magnifique. Ouais. Rien que la page de présentation avec la musique, là je l'ai dans la tête en ce moment là, c'est super, quoi. T'es tout de suite dans le trip. Ouais, ils sont pas amusés à faire un truc bourrin hollywoodien. C'est de l'ambiance, quoi. C'est de l'atmosphère. C'était un jeu d'atmosphère, Tomb Raider.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que donc Lara Croft est une aristocrate anglaise avec ses serviteurs et donc son manoir. Et tu nous disais que les niveaux d'entraînement qui était donc annexe finalement à la grande aventure qu'on pouvait trouver dans les menus était très important finalement.
Ils étaient importants, oui et non. Enfin, pour moi, ils étaient importants parce qu'ils permettaient, un, de familiariser avec les mouvements. Mm-hmm. Et puis ça te permettait, et puis je sais pas, c'était.
Ça donnait un peu de background aussi.
Ça te donnait, ouais, tu te rendais compte que effectivement, Lara Croft n'était pas érémiste.
Ah non.
Tu t'en rendais compte. T'avais Winston aussi qui la suivait avec son thé, machin. Oui, bon, c'est des petits clins d'œil, c'est pas grand chose. Mais c'était sympathique. Et puis tu voyais aussi sa pièce, je crois que c'était dans Tomb Raider 3, où elle gardait ses artefacts. Et puis il y avait des choses à faire, quoi. Au fur et à mesure des épisodes, enfin dans les trois premiers, tu avais un parcours extérieur, tu pouvais faire du quad, tu avais des cibles. Et tout ça, ça donne du corps à un jeu. C'est une espèce de petit bonus que tu rajoutes dans le jeu. Et je trouvais que c'était assez intéressant. D'ailleurs, ils l'ont développé de plus en plus, c'est pas pour rien, je pense.
C'est clair. Autre point vraiment à souligner avant de passer à Tomb Raider 2, c'était quand même la difficulté, on en a parlé au niveau du gameplay, parce que les choses étaient effectivement très millimétrées, mais il y avait aussi une composante qu'on ne retrouve absolument plus aujourd'hui, qui était les sauvegardes. Comment ça fonctionnait? C'est assez intéressant.
Alors les sauvegardes, c'était un système de cristaux qu'il fallait trouver dans chaque niveau. Alors je me souviens plus combien il y en avait, mais je crois que c'était assez rare. Il devait y en avoir peut-être, je sais pas, trois par niveau, un truc. Quand t'en voyais un, t'étais trop content. Ouais. Et donc voilà, tu le prenais, tu faisais ta sauvegarde, et on parle sur PlayStation, là. Mm-hmm. Et ils ont développé ils ont changé un petit peu le système dans Tomb Raider 2, si je me souviens bien. C'était une sauvegarde n'importe quand, mais une sauvegarde unique. Mm-hmm. Alors que si tu jouais sur PC, je crois que tu avais 16 slots. Bon, merci. Et sur Tomb Raider 3, tu avais un mix des deux. Tu pouvais sauvegarder n'importe quand. En revanche, il fallait trouver des cristaux pour pouvoir sauvegarder. Mm-hmm. Donc voilà, ils ont toujours essayé de trouver un petit côté. Bon, on veut pas que ce soit trop facile au début, hein, parce que maintenant, ça a bien changé. Et donc voilà, oui, effectivement, ça rajoutait encore la difficulté dans Tomb Raider. Hein. Ça, il n'y a pas de doute.
Et donc suite au joli succès qu'a remporté de manière critique mais aussi commerciale Tomb Raider, le phénomène finalement se lance, mais il va s'épanouir totalement fin 97 avec l'arrivée de Tomb Raider 2, où là carrément les grands médias commencent véritablement à populariser l'image de Lara Croft. On se rappelle par exemple du hors-série dans VSD qui mettait en image Vanessa Demouy.
Tout à fait.
Une Lara Croft non officielle, on parlera tout à l'heure bien sûr en deuxième partie de toutes celles qui l'ont représenté officiellement, mais alors Vanessa Demouy, c'est resté quand même dans les mémoires.
Ouais, je me souviens de ça. Je crois que c'était David Tennet qui s'en était occupé à l'époque. Bah, l'idée était pas mauvaise, hein. Vanessa Demouy, c'est vrai que bon, ça faisait une Lara Croft française, en tout cas, tout à fait respectable. Oui, Tomb Raider 2, écoute.
Pas longtemps après, quand même, hein, déjà.
Un an après.
Un an après, à l'époque, c'est très très peu.
Pour de toute façon, ils les ont enchaînés pendant un an après sur les cinq premiers, quand même.
Et on n'oublie pas que donc, le créateur, le père de Lara Croft, Toby Gard, a quitté Core Design juste après Tomb Raider. Visiblement, peut-être des dissensions ou une volonté de voler de ses propres ailes, mais en tout cas, il n'œuvre pas sur Tomb Raider 2.
D'après ce conseil, il est parti aussi avec le programmeur principal qui s'appelait Paul Douglas, je crois. Et la version officielle, c'est qu'ils sont partis parce que ils voulaient pas faire des suites à répétition. Bon, moi, je sais pas trop pourquoi ils sont partis. Je pense qu'ils ont, en tout cas, lui, il a un peu loupé le coche parce qu'effectivement, c'est Core Design qui s'est fait toute la thune et lui, il est parti faire son
Galéon.
Ouais, Confounding Factor, faire sa boîte, sortir Galéon en 2004.
Qui a été une sacrée galère quand même pour
les moyens. Oh. Non, mais je pense que Toby Gard, voilà, il est connu comme le père de Lara Croft. Bon, il a eu, il a eu l'idée, la bonne idée au bon moment, mais après, il s'est pas distingué pour énormément de choses. Ah, quoi. Après, il est revenu chez Crystal Dynamics et je pense qu'il a apporté des choses effectivement. Mais bon, voilà quoi, c'est...
Et alors, tu le disais tout à l'heure, c'était dans la bouche même de Toby Gard, arrivé avec le bon personnage au bon moment sur la bonne console. Bah, justement, pour ce Tomb Raider 2, Tomb Raider devient une exclusivité PlayStation.
Eh oui, c'est toujours les histoires de gros sous. J'imagine que Sony a mis pas mal d'argent sur la table. Et puis, voilà quoi, à l'époque, il y avait Final Fantasy. Ils ont l'exclu Tomb Raider après un premier Tomb Raider qui fait l'événement. Bon, voilà, ça cartonne.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de cet épisode? Moi, je me rappelle, je l'attendais fiévreusement, parce que vraiment, le premier Tomb Raider m'avait absolument enchanté. C'est un volet qui est tourné bien plus vers l'action. Ça commence, alors c'est pas le premier niveau, mais rapidement, on arrive à Venise, qui reste un petit peu comme le niveau emblématique de ce Tomb Raider 2, l'arrivée aussi de véhicules. Qu'est-ce que tu en avais pensé, toi, à l'époque de cet épisode?
Et j'en avais pensé plutôt du bien, même si effectivement, on est parti dans une action un petit peu débridée et où on se rend compte aussi que Lara Croft tout à coup ses barrières morales tombent, c'est-à-dire que dans le premier épisode elle ne tue quasiment que des animaux, ce qui n'est pas bien. Je ne cautionne pas, mais dans le 2 elle commence à tuer des humains, alors et à l'appel, hein, c'est ça que je veux dire. Donc c'est des mafieux, tout ce
des
que tu veux, mais
il lui tire dessus quand même.
Non, mais on est d'accord, ce que je veux dire c'est que
ça change l'esprit du jeu. Moi, ça m'avait déçu.
Ce qui est assez rigolo, c'est que si tu veux, dans le premier Tomb Raider, bon, il y a cette scène dans Anniversary dont on parlera tout à l'heure, mais dans Anniversary, ils ont bien mis l'accent justement sur la première fois où elle pouvait tuer un être humain face à Larson. T'as une scène dans le jeu où tu la vois qui, t'as Larson qui lui dit mais non, tu vas pas me tirer dessus. Bon, et puis c'est Lara Croft, tu ne me connais pas, blablabla, et puis elle lui tire dessus. Bon, après c'est un QTE super simple à faire, donc t'es obligé de le réussir. Et après, tu la vois en train de regarder ses mains et se dire oh, « je suis une meurtrière ». Bon, toutes ces considérations disparaissent assez rapidement dans les épisodes suivants.
Et puis, l'arrivée aussi donc, de nombreux véhicules, pas toujours très jouables en plus. Parfois, c'était... je me rappelle des speedboats dans Venise, où parfois c'était un peu galérien quand même.
Ouais, c'était... Enfin, je m'en souviens bien. Bon, là, c'est un coup à prendre, comme dans tous les Tomb Raider, en fait. C'est quand t'as fini Deadly Premonition.
Il y a plus rien qui te fait peur.
Exactement. Donc c'était pas très très jouable, mais bon, c'était bien de rajouter des véhicules. T'avais la motoneige et le canot effectivement électrique à Venise. Bon, il y avait un petit peu d'action, etc. C'est bien de rajouter ça. C'était bien de rajouter ça dans le jeu.
Lara qui a été légèrement bonifiée aussi graphiquement, le moteur a été légèrement revu. C'est l'époque, on s'en rappelle, où la PlayStation voit arriver le fameux Profiler qui permet de dompter un petit peu mieux les entrailles de la première PlayStation. Et du coup là, on voit une petite amélioration sensible quand même.
Bah on voit, ouais, l'amélioration elle est quand même assez nette hein, même. Hein. Lara est quand même beaucoup mieux modélisée. Les niveaux, bon, ils sont. Bon, après, le problème, enfin, le truc, c'est que j'ai tellement d'affection pour les niveaux du premier que bon. Mais ils sont mieux foutus. Tu sens qu'ils ont fait des progrès. Voilà. Mais ce qui va être moins le cas sur les épisodes suivants. Je trouve qu'entre le 2 et le 5, si tu veux, ils ont beau dire. Ouais, le moteur a été refait de A à Z, ou l'intelligence artificielle a été revue et corrigée.
On retient surtout les bugs des suivants, en fait. Hein,
ouais, ça, on en parlera dans le Tomb Raider 3. Et voilà, voilà. Bon, ils ont fait quelques progrès, mais bon, après, c'est toujours pareil. Hein, Core Design, pour moi, c'est. Ils ont jamais été excellents dans la technique. Donc, voilà.
Mais c'est l'arrivée de la natte de Lara, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, à partir du 2, t'as une natte, et puis une natte qui vole au gré du vent. Ouais.
Les différents costumes, etc. aussi, dans le 2.
Ouais, tu vois, quand elle se retrouve.
La combinaison sous-marine.
Quand elle se retrouvait dans la montagne, elle avait son blouson. Ouais.
C'est le début du cosplay Tomb Raider. Lara Croft.
Ils ont commencé à mettre des tenues différentes, ce qui restera
un gimmick.
Un gimmick qu'on va retrouver dans pas mal d'épisodes, dont les nouveaux avec les Crystal Dynamics, où ils font carrément une trentaine de trucs débloquables dans le jeu avec lesquels on peut jouer après. Enfin.
Et puis comme je le disais tout à l'heure avec la couverture du hors-série de VSD, c'est vraiment l'époque de la grande médiatisation de Lara. On se rappelle aussi de la une de Libération même.
Ça c'était assez énorme.
Qui avait titré sur Lara Croft.
Il y avait une interview dans FHM, je crois.
Dans FHM, La Tribune, Le Point, The Economist. Enfin, c'est vraiment le moment où Lara est devenue un personnage central, clé, important, presque même plus connu que Mario à ce moment-là, en tout cas par le très large public. C'est devenu finalement la première vraie ambassadrice d'un jeu vidéo qui était en pleine mutation à ce moment-là, qui touchait plus que, enfin, autre chose que juste des ados, des jeunes, des passionnés.
Et puis bon, c'était une femme. C'était une femme bien foutue, c'était une femme qu'on pouvait imaginer dans la réalité. Donc bon, voilà, tu fous une gonzesse bien foutue en couverture, ça fonctionne. Tu sais, il ne faut pas aller chercher très très loin, en fait. c'est tout simple. Hein.
Ça n'a pas changé, d'ailleurs.
Non, mais c'est vrai, c'est pas pour rien qu'on met des femmes nues qui mangent du yaourt dans les
pourquoi
publicités.
Pourquoi tu te touches au moment où tu dis ça ? Je te rappelle que c'est filmé pour les membres premium, qu'ils n'auront pas raté ce moment-là.
Quand je parle de femmes nues, il faut que je me touche.
C'est très bizarre. On finit avec Tomb Raider 2. Il y avait un dernier niveau aussi, un petit peu référence à Scarface.
Exact, oui, je l'oubliais celui-là, effectivement. Le Home Sweet Home, c'était un excellent niveau dans lequel Lara Croft était agressée par les mafieux en pleine nuit, et tu la voyais en nuisette, en fait. Et elle se défendait avec son fusil à pompe, et c'est là que tu voyais que le sens des proportions n'était pas du tout respecté dans le jeu. Ce que tu vois dans tous les niveaux d'entraînement, quand il est dans son manoir, parce que son lit est immense.
Oui, oui.
Enfin, c'est limite un terrain de tennis, quoi. Elle peut se mettre les deux pieds dans son évier.
Oui, dans l'évier, oui, je me rappelle de ça.
Bon, ça c'est rigolo, c'est juste pour dire que bon, voilà. Et à la fin du niveau, une fois que tu les as tous tués, ce qui était assez marrant, c'était un clin d'œil, mais bon, voilà, ils avaient fait un petit effort de mise en scène, entre guillemets. Tu la vois qui va prendre sa douche, et elle se tourne vers le joueur, et en fait, c'était le dernier témoin gênant de la scène, entre guillemets, et elle dirige son shotgun vers l'écran, et puis elle tire dessus. Bon, et puis t'as le générique. C'était sympathique, j'ai bien aimé.
Vous aussi, découvrez ce qu'aime Chris.
Non, mais ce que je veux dire,
il aime bien se faire tirer dessus par une belle nana.
Ce que je veux dire, c'est qu'ils
en se touchant.
Dans les chacun ses défauts. Dans les trois premiers, tu as des niveaux supplémentaires. Bon, c'est surtout sur PC. C'est sur PC. Unfinished Business, etc. Mais c'est vraiment des niveaux qui sont rajoutés parce que on a effectivement, ils devaient avoir des niveaux qu'ils n'avaient pas utilisés pour le jeu, pour les jeux. Et donc ils ont rajouté ça, allez-y, jouez encore que 2-3 heures.
Aujourd'hui ça s'appellerait des DLC.
Et ouais,
ce serait payant.
Oui. Tout à fait, sauf que là effectivement il n'y avait pas du tout d'effort de scénario ou de mise dans le contexte.
C'était du pur gameplay. Et tu mentionnais la version PC, on n'a pas signalé non plus qu'à l'époque où Tomb Raider sort sur PC, c'est le début un peu de l'avènement des cartes 3D, etc. Et que Tomb Raider en a bénéficié aussi parce que
3DFX,
ouais, voilà, la fameuse 3DFX, accélération 3D sur la version PC, ça changeait clairement la donne par rapport à la version PlayStation.
Ah oui,
c'était hallucinant hein, quand tu voyais le jeu sur PC sur un bon PC avec ta 3DFX, ça mettait une claque à la version console, hein, mais bon, ça a toujours été comme ça.
Allez, on passe à Tomb Raider 3, une fois de plus. opus, hein, réglé comme une horloge suisse, novembre 98, un an plus tard. Il s'agira de l'épisode le plus vendu, mais aussi du plus difficile de la série. Et là, c'est le début un peu de la fin, c'est-à-dire que même si elle est à son apogée médiatique, c'est un peu comme Franck Ribéry, les langues se délient et ça commence à devenir un petit peu tendu, parce que, on va en parler dans quelques instants, c'était un jeu gorgé de bugs, mais avant de revenir là-dessus, parlons un petit peu du jeu. Qu'est-ce qu'il apportait ?
Bah, il apportait pas énormément de choses, moi, je trouve. Hein. C'est-à-dire que Tomb Raider 3, c'était la continuité, sans prendre beaucoup de risques.
Est-ce qu'on peut prendre autant de risques en un an ?
Bah non, mais bon, ce que je veux dire, c'est que le jeu était long et difficile. Donc, à la limite, il aurait peut-être mieux valu faire un jeu moins long, moins difficile, mais avec plus de trouvailles. Enfin, bon, c'est mon avis. Hein.
Il était anormalement difficile, même. C'était parce que les deux premiers étaient réputés pour être difficiles, mais bon, ouais. tu pouvais finir par t'en sortir et t'étais happé par le jeu et tout. Et dans le 3, c'était rébarbatif complètement parce que c'était devenu. Mais c'est pour ça que j'ai lâché en cours. J'avais fait les deux premiers et j'ai arrêté de jouer à Tomb Raider à partir du 3ème. Parce que c'était, ça devenait impossible à gérer, quoi. Enfin, c'était
non, le 3,
un cauchemar.
Ouais, le 3, je me souviens que j'avais galéré, mais grave. On avait fait la solution avec Emmerich, justement. Oui. Dommage qu'il soit pas là, on en aurait parlé. On devait chercher tous les secrets, je me souviens. On était allé sur le net, évidemment. Bon, à l'époque, c'était moins développé que maintenant, mais on était regardé sur le net les solutions des mecs. Sauf qu'il y avait 3 secrets, c'était pas bon. C'était pas vrai, ça marchait pas. Donc, il a fallu qu'on les trouve tout seul. Et on a galéré, putain, on a passé une nuit blanche, il en a trouvé un, moi un, et puis le dernier on l'a trouvé tous les deux. On est tombé dans les bras, on a fait l'amour. Non, ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment très très difficile, quoi. Ouais. Disons qu'il n'y avait pas beaucoup de plaisir finalement. Mm-hmm. C'était trop dur, quoi. Maintenant, un Tomb Raider Legend, ça se finit en 8 heures, un Anniversary en 20 heures. Bon, déjà, c'est assez balèze. Le Tomb Raider 3, il devait se finir, je me souviens plus, je ne vais pas dire de bêtises, mais bon, ça devait être genre 40 heures facile, quoi. Ouais.
Ouais. Alors, il avait une chose qui est quand même intéressante et qui était une première pour la série des Tomb Raider, c'est l'ordre des niveaux. C'est-à-dire qu'au lieu d'être successif, cette fois-ci, finalement, c'était pas imposé, hormis le premier qui se déroulait en Inde et le dernier en Antarctique. On pouvait passer comme ça d'un niveau à l'autre, ça se passait comment ?
T'avais les 3 niveaux du milieu, entre guillemets, tu pouvais les faire dans l'ordre que tu voulais. Tu vois, t'avais l'Antarctique, Londres et l'Area 51. Donc voilà, c'est pas grand chose. Après, ça apportait une petite liberté. Je sais plus, ça devait apporter certaines armes selon le. C'était plus ou moins intéressant de le faire dans un ordre ou dans un autre.
Mais c'était via une sélection, parce que celui-là, vraiment, j'ai malheureusement pas joué.
Bah, t'avais une map en fait.
D'accord.
T'avais une map et puis tu choisissais où tu voulais aller après avoir fini ton premier niveau. Le premier niveau, d'ailleurs, en Inde, où Lara Croft pouvait tuer des singes innocents.
Oui.
Et ça,
des singes innocents.
Ça, je m'élève contre ça.
Pouvait ou devait?
Non, elle pouvait, elle devait pas. Mais c'est bien d'avoir ce petit choix moral en tant que joueur, de pouvoir faire des saloperies ou pas. Je crois qu'il te volait une clé. Enfin,
oui, c'est ça. Ça, ouais. Ouais, exactement. Autre point intéressant, c'est quand même l'épisode dans lequel, pour la première fois, à l'image de Pamela Anderson, Lara Croft voit sa poitrine diminuer.
Ouais, si on prend des photos comparatives, effectivement, pour les gens qui ont que ça à foutre.
Tu l'as fait, allez, arrête.
Ah oui, mais moi, c'était pour le travail. Tu te rends compte qu'effectivement elle a perdu un petit peu de poitrine, je crois que dans le 4 elle reprend, enfin dans le 4 c'est plus
c'est
rond.
Quand même n'importe quoi.
Bah, le truc en plus, c'est que selon que tu regardes les artworks ou les jeux, c'est pas du tout pareil, quoi. Je me souviens que dans les premiers artworks, t'as des, il y en a quelques-uns en particulier, c'est pas des seins qu'elle a, hein,
c'est des
pastèques en plus qui sont pas très très beaux.
Non.
Et donc bon, après ils ont corrigé ça dans les nouveaux là, à partir du Legend, ça commence à être bien.
Ouais.
C'est même très bien.
Le prochain dont on parlera en fin de podcast, elle a l'air beaucoup plus féminine, bien plus réaliste que jamais.
Oui, mais je crois qu'en fait ils ont dépassé le stade du tiens, elle a des gros seins. Ouais.
Tant mieux, à la bonne heure.
Ouais, et puis bon, c'est pas très intéressant de voir une femme courir avec des gros seins. Finalement, ça perd un peu de son charme, je trouve.
On est d'accord. Alors, on va parler maintenant du dossier clé de ce Tomb Raider 3, qui est vraiment, et je m'en rappelle, t'avais fait un gros article dans PlayStation Magazine. C'était en janvier 99, donc quelques mois après la sortie du jeu, t'avais eu le temps vraiment de le passer au crible. Et là, vraiment, tu titrais « Pourquoi tant de bugs ?» Et ça avait vraiment fait un ramdam, comme on dit aujourd'hui, parce que c'était monté assez haut. Quand même.
C'était monté assez haut, ouais, puisque Libération avait repris l'article avec Olivier Séguret, qui avait repris le truc en brocardant bien le truc. Et j'avais même été invité par Canal+ pour une émission pour intervenir et parler de ça. Bon, apparemment, Eidos a pas voulu. Bon, ça m'arrange, hein, parce que moi, aller à la télévision, bof. Et donc, j'y suis pas allé. Hein. C'est Florent Moreau, je crois, d'Eidos, ouais, qui était allé tout seul. Je crois que c'était une émission de Fogiel à l'époque. Il avait défendu
Dimanche Plus.
Je sais plus du tout. Mais bon, c'était voilà, en 99 ou 2000. Et oui, j'avais passé. En fait, ce qui s'était passé, c'est que j'en avais parlé à notre rédacteur en chef de l'époque, Jean-François Maurice.
TSR.
Parce que bon, je m'étais tapé la solution avec Emery, donc. Et j'avais dit, la vache, il y a un paquet de bugs dans ce jeu, c'est assez dément, quoi. Et il avait rebondi en disant, bah écoute, si tu penses que tu peux faire un article dessus, tu me dis. J'ai fait, ah ouais, mais bon, il va me falloir quand même quelques pages. Et donc, j'ai fait un article sur 3 pages. Alors, c'était assez long à faire. Et puis, en plus, il fallait pas que je me plante. Parce que là, quand tu fais ça, donc, tous mes trucs étaient illustrés. Mmh. Et effectivement, j'en avais trouvé un paquet. Et des drôles, des moins drôles.
Tu t'en souviens alors, lesquels, un petit peu, des...
Ouais, bah j'ai réimprimé mon article. Donc en fait.
Il y en a qui veulent leur pesant de cacahuètes.
Donc ouais, enfin. Donc il y a des choses de base, c'est-à-dire que tu te retrouves devant un passage qui te paraît libre. Mm-hmm. T'arrives et tu te cognes. Bon bah tu te cognes, tu comprends pas, tu fais merde, c'est du vide quoi. Et en fait, bon, tu bouges un petit peu ta Lara, tu fais un pas sur le côté, tu reviens et là tu peux passer, tu sais pas pourquoi. T'as des plateformes invisibles. Bon alors tu dis c'est voulu, c'est pas voulu, parce que dans le premier t'avais des plateformes invisibles qui étaient voulues, bon, ce qui était n'importe quoi d'ailleurs. a priori c'était pas voulu. Tu marchais sur des dalles qui s'écroulaient. Bon, c'est ok, c'est normal, sauf que tes traces de pas restaient en l'air, tu vois.
Gardez
les traces de pas. C'est plutôt marrant, il n'y a pas de truc très grave, c'est juste l'accumulation qui fait que c'est, voilà, ça fait un peu beaucoup. Tu te retrouvais sous l'eau, tu vois, donc t'es sous l'eau, il pleut. Et bien, tu vois la pluie sous l'eau, tu vois la pluie qui continue sous l'eau. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Dans les choses plus graves, il y avait ce fameux tigre dans le niveau de l'Inde, je crois, qui te poursuit. Donc tu te barres, parce que t'es lâche, donc tu te barres. Et quand tu sors d'une certaine zone, en fait, il peut pas passer. Mm-hmm. Il peut pas passer. Donc, au bout du couloir, en fait, il se cogne. Parce qu'ils ont pas prévu.
Dans un mur invisible.
Voilà, ils ont pas prévu qu'il aille plus loin. Donc, toi, t'es derrière, bah, tu le flingues. Voilà, tu le flingues.
T'as rien à faire. 2 cm de ligne.
Et plus grave, t'as la même chose avec une statue géante qui te poursuit dans une salle. Donc, la salle, elle est grande. A priori, t'es censé te démerder là-dedans. Mais si tu quittes la salle, la statue vient vers toi et si elle essaie de te suivre ou dès que tu sors, je me souviens plus, choisis-le qu'en tout cas elle disparaît purement et simplement.
Très bien.
Tu vois, elle disparaît. Donc voilà,
ce qui peut poser un petit problème là quand même.
C'est, bah carrément, ouais. Oui. Enfin, en même temps ça t'arrange, hein, je veux dire, ouais, t'as pas à te battre. donc voilà, ensuite il y avait des moments plus gênants où tu te retrouvais coincé carrément. Je me souviens avec l'hydropropulseur, moi par exemple, je m'étais retrouvé contre un mur. Et avec les angles de caméra qui étaient un peu casse-couilles, tu n'arrivais pas trop à voir où t'allais, donc hop, tu te cognes, et puis à un moment, tu n'arrives plus à bouger, tu fais merde. Et effectivement, tu peux rien faire. Pendant 10 minutes, j'ai essayé de bouger.
T'étais obligé de rester de la console.
Ouais, t'es obligé de reprendre ta dernière sauvegarde. Mmh. Et il y avait même une histoire de sauvegarde corrompue sur PC, oui. Ils ont mis un patch. Enfin, ça faisait beaucoup quand même. Mmh.
L'accumulation, effectivement, devenait un petit peu détestable. Pour ceux, en tout cas, c'est bien que tu en parles, parce que ça prouve bien, comme on le dit assez souvent, que dès l'époque de PlayStation Magazine, Joypad, etc., on faisait déjà ce qu'on a refait il n'y a pas très longtemps avec le top 10 des bugs de Red Dead Redemption, les bugs de Gran Turismo 5. C'était les choses qu'on faisait déjà, pour ceux qui se posaient la question. 99, malgré ces bugs, malgré un début de désamour du public aussi, c'est pas l'épisode qui s'est vendu le plus, elle arrive quand même, Lara, au musée Grévin. Preuve, en tout cas, sa stature grand public.
Et donc, oui, parce que tout à l'heure, tu disais que c'était l'épisode le plus vendu. Là, tu viens de dire que c'est pas l'épisode le plus vendu.
Oui, bah, parce que parfois, je dis n'importe quoi. ça peut arriver.
Alors, cela dit, moi, je pense que c'est le plus vendu, mais d'après ce qu'on a vu sur le net, c'est pas le cas. Donc, c'est peut-être pour ça.
Je pense que c'est en France, en fait. Donc, voilà, il a bien marché en France. Bref. C'est d'ailleurs pour ça qu'il doit arriver au musée Grévin, musée national. Mais dans le monde, c'est pas... C'est un peu le début de la fin.
Ouais, voilà. Bon, bref. En tout cas, pour revenir au musée Grévin, j'ai pas grand-chose à dire, parce qu'effectivement, c'était une consécration le fait qu'elle soit au musée Grévin, puisque bon, voilà, a priori, on met pas.
Mais c'est la première fois qu'il y a un personnage de jeu vidéo qui rentre dans ce genre de musée, de toute façon.
C'est possible. Je ne suis pas un spécialiste là, mais c'est fort possible, ouais.
Une année plus tard, une fois de plus. Mais cette fois-ci, attention, une année et un mois plus tard, en décembre 99, Tomb Raider 4 sort. Et là, on sent quand même que Core Design,
ça s'essouffle
un petit peu. Mais surtout, ils ont dû comprendre qu'il y avait une volonté des fans de revenir un petit peu aux origines. Et du coup, on découvre une Lara comme on ne l'a jamais vue, c'est-à-dire une Lara qui a 16 ans et qui va aller au Cambodge à la découverte de choses assez étranges avec son petit sac à dos et avec le professeur Werner ou le chercheur Werner, je ne sais plus.
Werner von Kreuy, ouais, professeur, oui, en archéologie. Enfin, c'était son mentor.
C'est ça.
Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont, ils ont plutôt une bonne idée. Ils se disent, bon, allez, on va faire un truc un peu marrant, on va faire Lara Croft jeune, et puis on va montrer un petit peu comment elle a eu son goût pour l'aventure, etc. Donc, et c'est là que, petite anecdote, c'est là qu'elle trouve son sac, en fait. Son sac magique dans lequel tu peux mettre 15 armes,
c'est ça.
Sur l'infini. Elle le trouve sur un squelette, hein, tu le vois quand tu fais le niveau. Mm-hmm. Et c'est là effectivement que Werner von Kreuy va chercher un artefact qui s'appelle l'Iris. Et tandis que Lara Croft, du haut de ses 16 ans, se rend compte qu'il ne faut pas y aller parce que, attention, il va y avoir un piège et tout. Werner von Kreuy est aveuglé par le truc et bon, lui, il va le chercher, il se fait choper, etc. Et après, voilà, il y a un cut et après, on passe à Tomb Raider 4 qui se passe tout en Égypte, ce qui est un parti pris intéressant. Et voilà, après, bon, Tomb Raider 4, c'est pas l'épisode qui m'a le plus marqué personnellement. J'ai bien aimé enfin, ils ont essayé de revenir un petit peu aux sources avec plus de
d'exploration,
de calme, etc. Bon, après, ça se renouvelait pas des masses, quoi. C'est un peu ça le souci.
Là, on sent clairement quand même que Core Design est en train un petit peu de tuer à petit feu sa série, quoi, à force de.
Je pense que
tirer la corde.
Je pense que Core Design en avait aussi un peu plein le cul d'en sortir un par an.
Ouais.
Et que mais bon, c'était la poule aux œufs d'or, quoi. Ils pouvaient pas trop se permettre. Je pense que Eidos derrière leur mettait la pression, que voilà.
Puis c'est difficile. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a des séries comme Call of Duty qu'on a l'habitude d'avoir tous les ans, mais il n'y a pas qu'un seul studio qui les fait. Il y en a deux. Ils se débrouillent pour avoir cette productivité et pas s'essouffler. Mais j'imagine qu'à l'époque, Core Design n'était pas non plus un studio aussi gros que les studios actuels, les gros blockbusters. Il devait s'essouffler à mort, j'en pouvais plus, quoi, je pense.
D'autant qu'on l'a pas dit, mais si je dis pas de bêtises, cet épisode est sorti aussi sur Dreamcast, donc il y a plusieurs moutures, il y a plusieurs versions à faire. Alors attention, on vérifie les notes,
ouais,
mais je crois que oui.
Sur Dreamcast, effectivement.
Ouais, c'est ça.
Tout à fait.
Donc il y a de plus en plus de versions à faire, donc des codes spécifiques.
C'est du taf en plus. Ouais.
Ouais. Ouais, non, puis je pense qu'ils ont, à mon avis, bon, j'étais pas dans la boîte, mais je crois qu'ils ont pas su s'entourer des bonnes personnes. Je pense qu'ils ont pas. Ils ont pas mis de sang neuf dans le truc. Ils ont tourné un petit peu sur eux-mêmes, j'ai l'impression, et ils avaient plus trop d'idées, quoi. Bon, c'est voilà, le jeu t'es pas désagréable, hein. Mais bon, et puis pour moi, Core Design a aussi un gros souci, c'est qu'ils savent pas faire de caractère design, quoi. Tu t'attaches pas aux personnages.
Non, les personnages, non.
Mais
les histoires en elles-mêmes sont pas passionnantes, hein. C'est très ésotérique, etc. Mais bon, ça part un peu dans tous les sens. On en parlera tout à l'heure, hein, sur les côtés complètement illogiques de certaines de la grande histoire de Tomb Raider et de Lara. Mais...
Ouais, c'est sûr qu'il faut pas trop s'attacher à la cohérence, hein, d'un épisode à l'autre ou de choses comme ça, parce que sinon, bon, voilà. Mais voilà, tu t'intéresses pas aux nouveaux personnages qu'ils intègrent. Ils ont pas de relief, ils ont pas d'histoire. Déjà ceux de Crystal Dynamics, ils sont pas géniaux, mais bon, c'est un peu mieux déjà. Donc voilà, tout confondu, effectivement, tu te retrouves avec les mêmes mécaniques de jeu, des persos pas très très intéressants, un jeu qui reste relativement difficile pour la plupart. Bon, voilà.
Alors tu dis qu'on ne s'intéresse pas aux personnages, et bien pourtant, la justice va s'intéresser à un prochain personnage, celui qu'on va découvrir dans Tomb Raider 5. Il s'agit en fait de Jean-Yves Empereur, qu'on va en parler dans quelques instants. C'était un petit peu le teasing de ce Tomb Raider 5, mais avant ça, quelle est la jeunesse de ce Tomb Raider 5, qu'est-ce qui en fait sa force? C'est un jeu qui fonctionne par flashback. Il y a quatre aventures qui sont remémorées par des amis de Lara Croft, puisqu'en fait, on commence par l'enterrement de Lara.
Oui, en fait, ce qui prouve bien que Core Design, je pense, en avait marre, c'est-à-dire qu'il s'était permis de tuer Lara à la fin de Tomb Raider 4. Genre, bon, voilà, c'est bon, là, on va la foutre en l'air, et on va voir ce qui va se passer plus tard. Peut-être qu'on n'aura pas besoin d'en faire un an après. Bon, pas de chance, ils ont dû en faire un quand même.
Novembre 2000, boum.
Voilà, donc ils en ont fait un. Alors, de la bouche même de Core Design, alors ça, c'est évidemment, c'était off. C'est quand j'y étais allé, je me souviens... Bon, j'avais pas été forcément très très bien accueilli après l'article de PlayStation.
Tiens, le petit Delpierre là, tu vas voir.
Non, mais je me souviens que Adrian Smith, à l'époque, il savait pas que c'était moi de PlayStation Magazine précisément, mais il savait que c'était PlayStation Magazine France qui avait fait cet article, qui avait fait pas mal de bruit. Et je me souviens qu'il avait présenté les journalistes qui étaient là en disant bon bah voilà machin de joystick ce que tu veux et puis PlayStation Magazine et là il avait bien appuyé en regardant tout le monde et tout le monde s'était tourné vers moi. J'ai, ok bon bah écoute c'est comme ça faut assumer et je sais plus ce que je disais du coup
que on avait que Core Design avait tué Lara et que oui, voilà. On assistait à son enterrement dans Tomb Raider 5.
Donc on assiste à son enterrement dans Tomb Raider 5 avec ses amis qui se réunissent pour parler de ses anciennes aventures exclusives. Mmh. Et donc les quatre aventures sont autant de niveaux qu'il faut faire. Bon voilà, ok, idée pourquoi pas. Et donc le détail amusant, c'est que quand tu reçois le premier dossier de presse de Eidos, il t'explique que dedans tu as Jean-Yves Empereur, donc un personnage que tu avais dans Tomb Raider 4, qui était un archéologue français. Voilà. Tu le croises, tu le vois dans les cinématiques, etc. Mmh. Et curieusement, dans un dossier de presse 3 mois plus tard, le nom de Jean-Yves Empereur, enfin le nom de Jean-Yves, parce qu'il ne s'appelait pas Jean-Yves Empereur, mais il s'appelait Jean-Yves quand même dans le jeu, disparaît pour être remplacé par celui de Charles Kane. Voilà. Et ça
What happened?
Voilà. Et évidemment, ils changent aussi le personnage. Mm-hmm. Ce qui est assez rigolo, c'est que tu vois qu'ils ont vraiment pris la même morphologie de personnage. Ils lui ont retiré ses cheveux, ils ont mis une chemise verte. Bon, voilà.
Alors, resitue un petit peu les choses. C'est que Jean-Yves Empereur est effectivement un vrai archéologue français, ouais. Qui n'était absolument pas au courant visiblement qu'il avait été intégré par Core Design dans Tomb Raider 5.
C'est un chercheur au CNRS donc qui fait des fouilles justement en Égypte. Enfin, ils ont repris exactement le personnage. C'est-à-dire que moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand je travaillais, ben, quand on travaillait ensemble là, chez Hachette, j'ai eu un coup de fil moi des avocats de Jean-Yves Empereur parce que bon voilà.
T'es devenu un peu le tribun de Tomb Raider quoi.
Bah non, mais bon, j'étais le mec médiatique de Tomb Raider voilà ouais. Je travaille dans un journal spécialisé. C'est moi
un fouille merde un petit peu quand même. Hein. On peut le dire. Tu cherchais les problèmes. Tu voulais faire du buzz, Christophe Delpierre.
Et donc ils m'ont appelé pour avoir des renseignements. Bon, j'ai pas. Bah, j'ai dit la vérité. Hein, tu sais moi, pour la justice, c'est un bon repas. je leur ai dit oui, on voit le personnage dans des cinématiques, etc. De toute façon, hein, il suffisait qu'ils achètent le jeu ou qu'ils se fassent un peu chier, ils le voyaient. Et même aller sur internet, je pense que tu les trouvais. Et donc voilà quoi, ils ont poursuivi Eidos en justice. Bon, ça s'est arrangé apparemment. Le problème, c'est que utiliser l'image de Jean-Yves Empereur, bon, dans l'absolu, dans un jeu, c'est plutôt rigolo. Le problème, c'est que les collègues de Jean-Yves Empereur, eux, pensaient que c'était une volonté délibérée.
Ah oui.
Et que un, ils touchaient de l'argent pour ça.
D'accord.
Et de deux,
qu'ils voulaient se mettre en avant, etc.
Quoi. Oui, enfin qu'il y avait un truc derrière. Mmh. Et de deux, que le souci, c'est que au niveau réalité historique, si tu veux, Tomb Raider 4, bon.
Oui, voilà, toute la série non plus. C'est, pas non plus
donc ça la fout un petit peu mal pour un chercheur un peu sérieux. Ouais, ouais. Mmh. Donc voilà, c'est ça qui a fait qu'ils sont un petit peu montés au créneau quoi. Mmh.
Pour toi et pour Core Design, c'est clairement un épisode à oublier.
Bah oui, c'est ce que nous avait dit. C'est ce que, si je me souviens bien, Adrian Smith avait dit quand on était chez Core Design. Il nous avait dit on l'oublie quoi. Il nous avait dit ça en gros quoi. Mm. C'est genre, c'est un épisode à oublier. Genre, on n'en est pas très fiers. On sait que c'est pas Gégène. Bon voilà. Après, l'idée de faire une Lara jeune dans une île hantée qui n'a pas d'armes, l'idée est pas mauvaise dans l'absolu. Ensuite, c'était fait de façon. Bon, après, c'était pas génial comme jeu. Mm. Faut pas dire que c'est génial. C'était pas pour moi, c'était pas franchement mauvais. Hein. C'était pas plus mauvais que le reste. C'est juste qu'effectivement, je pense que.
Bon après voilà. Ça là veut tout dire.
C'est. Je pense que Core Design était fatigué. Oui. Voilà. Et je pense qu'ils en.
La casquette.
Je pense qu'ils en pouvaient plus.
Et puis j'avais peut-être envie aussi de passer à autre chose, à la fois sur Tomb Raider, mais aussi technologiquement, parce que c'était le moment où la PS2 commençait à poindre. Ouais. Et on sait qu'à ce moment-là, justement, il y a eu un deal avec Sony et Eidos. Pour une exclusivité forte de la licence Tomb Raider, on verra dans quelques instants qu'elle a totalement capoté, puisque cette fois-ci, non pas un an après, mais là, oh là là, pour la première fois, quasiment trois ans après, puisqu'on part de novembre 2000 à juillet 2003, arrive Tomb Raider 6, plus connu sous le nom de L'Ange des Ténèbres, et là, c'est la descente aux enfers, hein, quand même.
Bah ouais. c'est bien résumé. Le souci, c'est qu'ils ont eu, ils ont quoi, 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, je sais plus, pour le faire. Donc bon, a priori, ils devaient faire un bon jeu. Et surtout, le jeu était super attendu, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on savait très bien que la série s'était essoufflée. Alors Eidos devait grave leur mettre la pression. La communauté des joueurs en général l'attendait grave. Mmh. Nous, en tant que testeurs, on s'attendait à avoir un petit peu de neuf, etc. Et on a vu le jeu, et effectivement, je me souviens qu'ils flippaient vraiment Core Design, puisqu'ils étaient venus. Je me souviens même que j'étais allé chez Eidos, qu'un mec de Core Design était venu en France en disant: oui, mais attendez, là vous avez vu une version d'il y a 2 jours, et maintenant, là en 2 jours, on a changé plein de trucs. Et voilà. Et
tu sentais combien de fois on l'a entendu cette phrase.
tu sentais vraiment qu'ils flippaient, en fait. Hein.
Ça balisait à max.
Ça balisait pas mal. Et donc après le jeu vaut ce qu'il vaut, quoi. Effectivement c'est mieux réalisé, mais le souci de Core Design, c'est que depuis Tomb Raider 1, ils ont pas su adapter une maniabilité correcte, quoi. Tu vois, c'est dingue quand tu vois le passage à Crystal Dynamics. Tu te dis, putain, ouais. Voilà, eux, ils ont su faire quelque chose. Après,
pendant ce temps-là, Crystal Dynamics faisait des jeux comme Gex ou Soul River, ou ouais, des choses comme ça. Donc, ils avaient beaucoup, beaucoup avancé en termes d'animation, d'ergonomie, de plein de choses, quoi. Ce qui n'a pas été le cas de Core Design.
Non, Core Design, ils sont restés enfermés dans leur truc, et techniquement, voilà.
Julo.
Comment ils se sont débrouillés scénaristiquement, du coup? Donc, elle était morte, Lara Croft, et dans L'Ange des Ténèbres, elle est vivante?
Oui, finalement, elle était morte, mais elle était pas morte, hein, ouais. Tu sais, ça.
Ça peut pas. Quote une phrase d'il y a 2 secondes, tu sais, si tu dois chercher la cohérence.
Donc, pas d'explication.
Non, je me souviens même plus, mais si tu veux.
Mais si, parce que je crois qu'elle voulait se faire oublier, donc elle avait orchestré sa mort.
Oui,
etc.
ça y est, je me souviens. En fait, le truc, c'est qu'après, elle avait fait une espèce de retraite spirituelle, bref, n'importe quoi. non, mais bon, il faut vraiment pas chercher la cohérence, ça sert à rien dans les Tomb Raider. Voilà.
Mais néanmoins, ce Tomb Raider L'Ange des Ténèbres, bon, au-delà du fait qu'il apporte quand même un visuel bien plus travaillé que dans les épisodes précédents, même si c'est pas non plus Monts et Merveilles, hein, pour de la PS2, il intégrait quand même quelques éléments un peu plus scénaristiques. On pouvait dialoguer avec certains personnages, il y avait des séquences, il y avait une longue séquence à Paris, pourtant ils t'avaient mis le Louvre, Chris, ils avaient pensé à toi, ils avaient voulu te séduire.
Et puis surtout, ils avaient mis de l'infiltration.
Oui.
Attention, hein.
Ah oui, à l'époque où tu jouais à fond à Tenchu. Ouais.
C'est non, mais le souci, c'est que tout ça, c'était pas convaincant. Graphiquement, c'était pas mal, mais bon, tu te retrouvais dans des trucs assez étroits, des niveaux assez étroits, finalement. L'infiltration au secours, hein. Voilà.
Elle était chiante, oui.
L'intelligence artificielle, surtout, ils ont jamais su faire une intelligence artificielle correcte. Bon, dans les nouveaux Tomb Raider, elle est pas terrible non plus. Mais tu vois, quand tu fais un truc d'infiltration, tu essaies de faire des trucs un petit peu subtils de temps en temps. Là, il y avait rien de subtil. C'était pas. Puis bon, comme d'habitude, le character design était pourri. Le character design, il n'y avait rien.
Ça fait beaucoup de foirades quand même.
Elle avait plusieurs looks, mais il y en avait un avec un vieux jean et une espèce de petite veste trop courte qui lui laissait voir le nombril. Mais c'était ringard, quoi. Enfin, c'était nul. La pauvre cagole, quoi, à Paris, quoi.
Et pour dire, même le artwork qui était lié à ce visuel, il était pourri. Parce qu'on trouvait que le coude un petit peu en l'air, c'était mal foutu.
Non, mais je pense qu'elle était sponsorisée par les Frank Jennifer, quoi. c'est à peu près cette gamme-là, quoi. Tout ça pour dire que c'est le dernier Tomb Raider de Core Design.
Ça devait être
une trilogie.
Ça devait être le premier épisode. Ça devait être une série à suite à partir de ce moment-là. Ils voulaient faire des suites régulièrement qui apporteraient. Ils avaient une idée assez ambitieuse au niveau du scénario avec les Néphilim, une race oubliée qui.
Il y avait des trucs bien. Hein. J'étais allé chez eux là en Angleterre et franchement, il y avait des bonnes idées, mais bon.
Il y a des idées, je dis pas le contraire. Le souci, c'est que c'est toujours
mal implémenté,
mal mis en application, et c'est à différents niveaux, que ce soit au niveau du gameplay, du chara-design, je me répète, mais c'est important, sinon tu t'attaches pas, t'es pas impliqué, des mécaniques de jeu, des puzzles, quoi. C'était pas un jeu, puis c'était chiant, tu progressais dans le jeu et ça t'emmerdait, en fait. Enfin, je sais pas, t'as fait la solution.
Oh, j'en ai chié tellement. j'en pouvais plus.
C'est pas un jeu, il faut pas oublier un truc, quand tu joues à un jeu vidéo, t'es censé t'amuser. Oui. Et là, tu t'amusais pas vraiment, quoi.
Et puis quand tu mourais, ça rechargeait, ça durait genre 1 minute, il fallait recommencer, et tu recommençais, tu remourais tout de suite, dans les niveaux vers la fin, où t'avais différentes pièces, un petit peu à la Indiana Jones, où tu devais réaliser des défis avec de la lave, etc. Et tu meurs, et tu recommences. Enfin bon... Voilà, il était temps véritablement de passer à autre chose, puisque après un début... Ah, Chris.
Oui, juste un petit truc pour signaler qu'avec cet épisode, il y avait
un DVD.
Je suis pas tombé dessus, mais bon, ça me fait toujours marrer. T'avais un DVD interactif qui reprenait le jeu. Et en fait, tu progressais dans le jeu, en fait. Alors, c'était super difficile, attention. Il fallait appuyer sur une des 4 touches directionnelles quand ça s'affichait à l'écran. et là tu pouvais progresser dans l'aventure. Donc c'est tout ça pour dire qu'ils essayaient de d'élargir leur cible, etc. Mais bon, toujours avec des idées de merde.
Bon, ça c'est fait. Core Design, au revoir. Après les premiers temps absolument merveilleux qu'avaient séduit et la critique et les joueurs, il était temps de passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est l'arrivée de Crystal Dynamics, qui va donc, comme tu le disais, Raon, hein, Pandemonium, Gex, Soul River. Donc un développeur qui était quand même auréolé de jolis succès, en tout cas, même techniquement, parce que Gex, même si c'est pas un grand jeu de plateforme, mais techniquement, vraiment, c'était
le jeu le plus impressionnant qu'ils aient fait, c'est Soul River, le premier. Technologiquement, c'était incroyable. C'était le premier à faire du streaming. Effectivement, il n'y avait pas de loading du début jusqu'à la fin de l'aventure. Il y avait un truc aussi. Nous, on avait eu beaucoup de versions. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, qui était arrivé à la rédac, ça arrivait régulièrement, etc. Et on avait une version notamment, bon, il y avait des portails dans Soul River, exactement comme Portal en fait. Il y avait exactement la même chose que dans Portal, sauf que ça tournait sur une PlayStation 1, ce qui est hallucinant aussi.
Il y avait le morphing des niveaux.
Il y avait le morphing des niveaux, et il y avait aussi un personnage, donc Raziel, le personnage principal, qui avait les jambes qui se mettaient correctement sur les escaliers, avec la bonne jambe sur la bonne marche. Il y avait plein de petits détails techniques comme ça, donc c'était un studio qui avait de très bons programmeurs, et c'est un studio qui travaillait aussi à l'époque avec une certaine amie Enig, qui est aujourd'hui la créative directeur de Naughty Dog sur Uncharted.
Exactement.
Qui écrivait le scénar, donc.
Ouais, et qui était la gardienne un peu de tout ce qui est mythologie,
la Bible.
Voilà, etc. Et elle intervenait aussi dans le game design et la narration.
Tout ça pour dire que finalement, les joueurs étaient plutôt confiants, avaient envie d'espérer un vrai retour de Tomb Raider, surtout que Eidos, intelligemment, a pris son temps cette fois-ci. On n'a pas voulu rusher les choses, et donc il faudra attendre Tomb Raider Legend qui arrive en avril 2006, c'est-à-dire que 3 ans en gros, après l'échec de l'Ange des Ténèbres. Alors, qu'est-ce que ça a apporté ce Tomb Raider Legend ? Est-ce que finalement c'était un retour en grâce ?
Bah, ça apportait à peu près tout, hein. Ça apportait une nouvelle maniabilité, des environnements qui étaient plus beaux, évidemment, entre guillemets, mais bon. Ça apportait plus de technique, une meilleure maniabilité, un chara-design un chouïa au-dessus. Et puis voilà, c'est surtout que le fait, là, le jeu était agréable. Bon, ensuite, c'était un Tomb Raider qui se finissait en 8 heures. Mais après, c'était un choix et why not ? Voilà, t'as envie que les gens se prennent moins la tête. Bon, après, au niveau cohérence du scénario, ça reste un peu toujours n'importe quoi, mais on s'en fout, on joue pas à Tomb Raider pour ça.
Juste pour la petite anecdote, les deux personnages de Zip et Alistair dans la version française étaient incarnés par des personnes qu'on connaît bien en France.
Ouais, ils étaient doublés par Omar et Fred. Alors.
Moi je trouve qu'on reconnaissait pas du tout leur voix, non, donc ça n'avait aucun intérêt.
D'une part, enfin, de toute façon, ça c'est un truc que j'ai jamais compris, même au cinéma, avec les voix de. Bon, c'est comme ça, hein, il faut attirer les gens, je sais pas, ça marche.
Ah, oui.
Et là c'est pareil, c'était avec les voix d'Omar et Fred. Alors ils sont super sympathiques, hein, moi je les aime bien. C'est juste qu'effectivement, je vois pas l'intérêt parce que déjà, d'une part, tu les reconnais pas trop dans le jeu, effectivement.
Non,
Moi, même quand tu le sais, tu t'écoutes, tu fais ah ouais, tiens, une petite intonation là, Zip, ok, c'est ouais, bon. Mais sinon, à part ça, voilà, et puis surtout, il n'y a pas d'humour spécifique ou de choses qui font que, à la limite, tant mieux, hein, je préfère.
Oui, parce que si on les reconnaissait vraiment et qu'ils connaissaient tous leurs personnages,
je suis l'art à la française.
Enfin, bref, je sais pas, bon, ça reste un argument marketing qui avait pas trop lieu d'être.
Il fallait peut-être relancer aussi un petit peu l'attrait et donc se servir de plusieurs ficelles.
Peut-être qu'ils ont pensé de séduire toi particulièrement.
C'était loupé.
Donc Tomb Raider Legend pour toi, c'était.
C'était un bon épisode.
Un bon épisode.
Ouais, bon, carrément. C'était un bon épisode. Je trouve qu'ils ont récupéré. Bon, Toby Gard était venu effectivement en tant que.
Le retour du père de Tomb Raider.
Conseiller, voilà. Que conseiller sur la série. Bon, pareil, hein, c'était aussi, je pense, une histoire de dire regardez, on a le père de Lara qui travaille avec nous. Mais bon, voilà, je pense qu'il a quand même apporté quelques petites choses. Et voilà, quoi. Non, je pense qu'ils ont fait du très bon boulot sur ce premier épisode. Après, j'ai vraiment préféré l'anniversary. Mais bon, après, c'est forcément, hein, ça revenait aux sources.
Mais justement, c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec l'arrivée de Crystal Dynamics. C'est, vous l'aurez compris, hein, la série vraiment était en difficulté. Et là, j'ai l'impression qu'épisode après épisode, il se bonifie. Donc, en revanche, on a une phase ascendante, puisqu'effectivement, un an après, pour fêter les 10 ans. Bon, même si le jeu sort 11 ans après la sortie du premier, bon. Donc en juin 2007, Tomb Raider Anniversary arrive. Et donc, c'est une sorte de. C'est même un remake du premier épisode. Celui qui finalement a fait fantasmer le plus les joueurs et qui restera véritablement dans la légende. Mais avec quelques petites subtilités. C'est pas juste on reprend les niveaux, on les fout à HD et puis voilà. Non, il y avait quand même des petits changements.
Il y a même des gros changements. Hein. C'est-à-dire qu'il y a ils ont repris des niveaux à l'identique entre guillemets, mais ils ont aussi cuté quelques-uns, rajouté certains trucs. Enfin, ils ont modifié le jeu pour que ce soit plus agréable à parcourir, à explorer.
Sur la version Wii, ils ont implémenté aussi des gameplays un petit peu différents en utilisant la Wiimote, etc.
Ça, je ne sais pas, j'ai pas joué à la version Wii. Mais voilà, non, c'était du très très bon travail, c'était super agréable, c'était assez long. C'était
une vingtaine d'heures, tu disais.
Ouais, c'était une vingtaine d'heures. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai fini en une vingtaine d'heures. Et puis voilà quoi, il y avait aussi le bullet time, je sais plus s'il était déjà dans Légende ou pas, mais bon, l'histoire du bullet time quand tu essaies de te battre contre des ennemis un peu plus coriaces. Ils ont rajouté effectivement ce que je disais tout à l'heure avec Larson, la fameuse scène où bon, il y a un petit peu d'empathie par rapport à ce qui est fait.
Tu peux nous donner un ou deux autres exemples de scènes qui ont un petit peu changé? Même le début est un petit peu différent puisque dans le premier Tomb Raider ça commence directement avec une cinématique avec un Sherpa qui est avec toi qui se fait dévorer par les loups. Là on commence d'abord par jouer un petit peu, ouvre la porte de ce temple dans la...
Bah, en fait il te présente le jeu avec effectivement un décor extérieur qui est super beau d'ailleurs. Avant effectivement donc tu fais quelques manipulations, c'est histoire de dire regardez vous pouvez faire ça, ça et ça avant que les fameuses portes qu'on connaît tellement bien dans Tomb Raider 1 s'ouvrent. Et que voilà, tu rentres et tu fasses ton truc. J'ai pas les exemples. Le truc, c'est que c'est une myriade de petites choses plus ou moins marquées.
Est-ce que par exemple, parce que moi je me rappelle, tu me l'as mis dans tes notes, vers la fin du jeu, on a une espèce de pseudo boss complètement ringard en roller. Non, qui a peut-être inspiré Hideo Kojima pour MGS2. Malheureusement,
c'est les fameux, parce que bon, alors c'est là que tu te rends compte que la cohérence, c'est n'importe quoi. Parce que bon, le scénario de Tomb Raider, c'est quand même, enfin du premier, c'est quand même une Atlante déchue, une reine de l'Atlantide déchu qui se réveille et qui veut que Lara aille chercher le sion qui va lui permettre de retrouver son pouvoir.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se sent un peu dans le Anniversary où on voit physiquement même, elle est très sèche, elle a des longs doigts. Quand tu le sais, tu sens qu'elle n'est pas humaine. Dans le Tomb Raider initial, bon, Natla.
Oui, effectivement. Enfin, peut-être, ouais.
C'est Claire Chazal, quoi. Elle est blonde, elle est vieille.
En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y avait un personnage totalement ringard dans Tomb Raider original, qui était un mec en skate. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont foutu un mec en skate.
C'était ridicule.
Dans un truc en plus que c'était censé être les sous-sols de l'Atlantide ou je sais pas quoi. Enfin,
le mec qui fait du skate à l'Atlantide, c'est la classe.
C'était, elle avait embauché trois mecs, tu vois, un cowboy, un grand black armé d'un shotgun et puis un mec qui faisait du skate avec des Uzi. Et ça a été changé dans l'anniversaire. Alors je crois qu'il est toujours là, sauf que tu te bats plus contre lui, ou alors c'est expédié, enfin je sais plus, mais bon bref, ils ont un petit peu... c'était ridicule quoi, surtout. Oui. Pour dire, en fait, j'ai l'impression qu'ils avaient vraiment des idées à droite à gauche. Tiens, on va foutre un mec en skate.
Non, ouais, génial.
C'est complètement débile, mais bon, c'est pas grave, tu t'en fous, parce que comme je me répète, mais tu joues pas à Tomb Raider pour ça, tu joues à Tomb Raider pour l'exploration et puis l'atmosphère quoi, puis pour l'action aussi, mais moi ça pète
quand même l'ambiance quoi quand tu vois des trucs comme ça par rapport au souvenir des premiers Tomb Raider où t'avais cette impression d'explorer, de découvrir des choses anciennes.
Non, mais
réelles,
bon, là c'est exceptionnel hein, ils ont fait un truc, c'est n'importe quoi, mais bon, la plupart du temps ils restent un tout petit peu cohérent dans leur univers.
Alors on rappelle que donc Tomb Raider Legend, toi tu as plutôt apprécié, cet Anniversary toi pour toi fait partie de l'un des tout meilleurs de la série.
Si je devais garder un Tomb Raider, je garderais une Anniversary, ouais.
D'accord, parce qu'on rappelle donc ils font partie ces deux-là, et donc Underworld dont nous allons parler tout de suite, de Tomb Raider Trilogy là qui est sorti. En plus l'intérêt c'est qu'il sort à tout petit prix puisque c'est 30 euros pour trois jeux qui donc vraiment nous ont plu ici. Et donc Tomb Raider Underworld, ça sort en novembre 2008. Là c'est vraiment l'arrivée, même si Anniversary était sorti aussi sur Xbox 360 et donc il n'arrive qu'aujourd'hui sur PS3 via cet épisode trilogie. Underworld, c'est le premier épisode 100% console HD, Xbox, PC, PS3, et franchement c'est quand même celui qui technologiquement fait un vrai gap, parce que Legend était vraiment plus joli que L'Ange des Ténèbres, mais c'était pas non plus complètement incroyable. Anniversary non plus. Underworld, vraiment, c'est la claque. Hein. Les environnements sont énormes, sont beaux, ils sont travaillés. Moi, j'ai vraiment aimé ce titre.
Oui, c'était c'est un très très bon épisode, Underworld. Techniquement, effectivement, ils sont encore un cran au-dessus. Au niveau niveau de tout, en plus, hein, les environnements, ils ont des jeux de lumière qui sont vraiment, vraiment chiadés. Le niveau de la Thaïlande, on en parlait tout à l'heure. C'est vraiment pour moi le plus beau de tous les niveaux de tous les Tomb Raider. Quand t'arrives là,
totalement dépaysant, hein, vraiment. Moi, j'ai retrouvé le frisson justement de, comme le disait Julo, d'être solitaire, d'arriver dans ce décor gigantesque, d'entendre cette petite musique douce qui part, au loin des cascades qui tombent, une espèce de brume. Et puis c'est parti. Et
puis l'aspect
c'est...
macro puzzle où tu vois des trucs, tu sais que tu vas devoir actionner tel ou tel machin, ouais, mais t'arrives pas à comprendre encore bien
et
tout ce que ça va être.
Et tu cogites.
Oui, parce qu'en plus, il me semble que dans cet épisode, c'est un petit peu moins évident les corniches. Tu peux aller, tu vois, c'est à toi un petit peu de chercher.
Il faut bien regarder.
Et ça, c'est vraiment pas mal du tout.
Et l'entrée en matière est pas mauvaise non plus, où direct on plonge comme ça
depuis le bateau
en Méditerranée.
Et on découvre comme ça une espèce de tombeau sous-marin.
Déjà, tu vas sous l'eau, c'est magnifique. Non, franchement, l'aventure est sympa. Techniquement, c'est au top. Et puis, comme tu dis, c'est le premier qui est surtout. Celui-ci n'est pas sorti sur PS2.
Non.
Donc, effectivement, voilà, c'est pour ça que sur PS3, là, on a les deux autres qui sont remixés, entre guillemets.
Même l'histoire, même si elle reste Lara Croftienne, pas toujours incroyable, mais avec une espèce de double, etc. Il se passe un peu plus de. Il a une volonté de scénariser un petit peu plus l'histoire.
On se retrouve avec le fameux doppelganger. Je pense que c'est le même, c'est la même création entre guillemets que celle qu'on avait dans Tomb Raider Anniversary, sauf qu'elle avait pas de peau. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était un personnage qui était, tu voyais sa chair en fait, tu voyais sa chair directement, là elle avait pas de peau, là elle a de la peau, c'est une création de Natla quoi, et voilà, bon effectivement c'est toujours un peu tordu mais ça fonctionne.
Donc voilà, c'est quand même plutôt positif de se dire que sur les trois derniers épisodes, Lara Croft, même si aujourd'hui elle est un peu moins populaire, soyons honnêtes, si les ventes sont moindres qu'à l'époque de la PlayStation et de ses grands débuts, où véritablement elle vendait par petit pain, c'est vrai que les gens ont véritablement été déçus, et on le comprend car les jeux étaient décevants à une certaine période, mais c'est vrai qu'elle est en train de bien revenir, et ce qu'on a pu apercevoir du prochain Tomb Raider, le fameux reboot, le titre qui s'appellera Tomb Raider tout court, qui devrait sortir l'année prochaine ou peut-être même en 2013, avec une Lara plus jeune, avec un mode qui a l'air plus survival, laisse présager quand même des choses intéressantes.
C'est certainement très intéressant. C'est peut-être celui qui m'intéresse le plus. J'avais bien aimé Tomb Raider Underworld, mais effectivement, on restait dans un Tomb Raider assez classique. Et je pense que le reboot, ils vont y placer beaucoup, beaucoup de soins. En tous les cas, c'est ce qui semble. Même si on n'a pas vu grand-chose pour l'instant, on a vraiment l'impression qu'ils veulent vraiment ne pas le rater celui-là. Faire un truc vraiment fort, quoi.
Et puis, on sait que le succès va être scruté avec attention. S'il n'y en a pas, ça pourrait aussi marquer le vrai déclin et peut-être une sorte de disparition de Lara, parce que elle a besoin aujourd'hui de pouvoir exister un peu plus fortement. On le voit à chaque sortie de Tomb Raider, des Lara officielles, c'est toujours une émeute, c'est-à-dire que l'image de Lara est toujours appréciée, en tout cas par un certain public, mais c'est vrai que les jeux en eux-mêmes peinent plus à s'imposer commercialement parlant.
Si on peut revenir sur les Lara officielles, ça reste un élément marketing qui était rigolo au début. Mm-hmm. Et j'ai l'impression en tout cas que les gens, à partir de la quatrième, c'est toujours sympa de l'avoir sur un salon de l'E3 et puis d'avoir quelques petites photos avec. Mais
ça pourrait être n'importe qui.
C'est-à-dire que autant les toutes premières, tu t'en souviens, tu vois, Ronan Mitra, Neil McAndrew,
Ronan Mitra en tous les cas en particulier, tu l'as revu après dans d'autres films, etc.
Où elles avaient défrayé un petit peu la chronique, comme Neil McAndrew avec Playboy. Mais sinon, après, ils te sortent une gonzesse. Là, dans les dernières, c'est. Elle est gymnaste, donc faire des trucs sympas. Mais je crois que les gens ils s'en foutent un peu.
Alors là on rentre vraiment dans la partie hors jeu, dernière partie de ce podcast sur les à côté de l'univers de Tomb Raider et de Lara Croft. Mais moi justement sur ce point très précis, pour avoir eu la chance de pouvoir être au cœur de cette histoire, puisque c'était il y a 2 ans, j'avais fait des choses justement avec Tomb Raider et avec Alison Carroll, je l'avais accompagné pendant 2-3 jours, donc j'étais vraiment au plus près et je peux vous assurer que c'était hallucinant, c'était de la folie. Ça veut dire qu'on était obligé d'avoir 4 gardes du corps balèzes à plus savoir qu'en faire. Les gens poussaient pour Lara Croft, la voir.
Vous étiez où? C'était à quel
C'était au festival du jeu vidéo, mais le salon s'arrêtait. C'est à dire que sur la grande scène, quand ils montraient les plus gros jeux, il y avait 500 personnes, 1000 personnes qui se massaient. Quand il y avait le show entre guillemets d'Alison Carroll avec Lara Croft, c'était 5000 personnes qui convergeaient et qui était là hypnotisée. Ça veut dire que
ouais,
on est d'accord mais... que ça a perdu de ça, elle a été beaucoup moins charismatique, médiatiquement moins importante, mais les gens ont quand même encore une fascination, et il y a beaucoup de personnes qui font du cosplay, dont certaines plutôt pas mal d'ailleurs.
Ouais, on peut en parler de ça. Oui, on est d'accord, mais ça reste du micro phénomène lors d'un salon dédié, etc. Et puis effectivement t'as d'autres trucs. Bah, les mecs, quand tu regardais une borne d'arcade où il y a rien, et puis où une nouvelle Lara, bon, ils vont regarder.
Mais du coup, ça attire le regard.
Mais,
ça...
ce que je veux dire, si tu prends le truc médiatique, t'as plus, voilà, t'as pas une Lara Croft officielle que tu retrouves dans un article d'un grand journal entre guillemets, ou de, enfin voilà, ça reste une.
Mais elle a fait tous les JT quand même. C'est-à-dire que tous les médias grand public.
Mais bon, je regarde.
Tous les médias grand public, forcément, quand ils ont parlé du festival du jeu vidéo, qu'est-ce qu'ils ont mis en avant? C'était. Alors, Lara Croft était présente en chair et en os.
Moi, j'ai l'impression que ça reste quand même un petit peu en dessous. Alors, t'as toujours des petites anecdotes, genre Karima, la 7e, voilà, oui. Karima. Apparemment, elle aurait fait un entraînement avec des forces spéciales, choses comme ça. Donc, c'est toujours marrant de te dire, tiens, tu la vois dans un reportage où elle fait, oui, voilà, moi j'ai. Voilà. Mais à part ça reste au niveau du clin d'œil, quoi. Bon, après, c'est sympathique. Mm. C'est juste que bon.
C'est un outil marketing.
Tous les ans, bon, ça fonctionne moyen, je trouve. Maintenant, bon, après, je suis pas.
Julo.
Alors, je ne sais pas si tu comptais enchaîner rapidement sur les films, etc. Mais dans la tronche du grand public, de tout le monde, Lara Croft, c'est Angelina Jolie, en fait. Tout le monde s'en fout des
Et tu
des
crois que les gens se précipitaient sur la scène parce qu'ils pensaient y voir Angelina Jolie?
Ah, peut-être, je ne sais pas, mais dans tous les cas, tu t'en parles à n'importe qui, voilà, qui connaît un tout petit peu le sujet, et ils pensent tout de suite à Angelina Jolie, maintenant.
Ouais,
même si ça risque de changer, puisqu'on sait qu'il y a un nouveau film Tomb Raider qui est dans les cartons, qui devrait sortir probablement aux alentours du jeu. Et ça ne devrait pas être Angelina Jolie qui incarnerait Lara Croft. Donc,
c'est une catastrophe.
Les choses risquent de changer.
Je pense qu'après les deux films qui étaient aussi brillants que.
C'est une catastrophe.
Non, mais vraiment. Je pense qu'elle se dit qu'elle a.
Je crois que c'est pas ce qui se fait de pire quand même dans le domaine de l'adaptation de jeux vidéo au cinéma.
Bah disons que moi.
Ça donne le level. Hein,
ça donne le level, ouais, mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de pire.
Disons que le 1, par rapport au 2, moi je trouve que le 2 est catastrophique. C'est-à-dire que
j'ai vu qu'un extrait du 2.
Dans le 2.
Mais t'as vu le premier ou pas?
Non.
Bah il est pas mal. Enfin, il est pas mal.
Il est mieux que le. Je crois que c'est dans le premier où t'as, en revanche où t'as des gens qui vont des natifs du Cambodge,
oui,
je sais pas quoi,
c'est le 2, ça.
qui détruisent leur temple puis qui sont contents.
Non mais
super. Enfin bon bref.
Mais c'est vrai que j'ai eu raison. Ça a lancé la carrière. Faut pas l'oublier d'Angelina Jolie. Hein. Ouais. L'explosion hollywoodienne d'Angelina Jolie, c'est post Tomb Raider.
Ouais, mais bon, faut dire qu'elle est crédible. Voilà, elle est crédible dans le rôle.
Même si elle joue très mal.
Au niveau de la plastique, bon, tu peux pas dire grand-chose.
Au niveau du plastique
Voilà, quoi, c'est. Des deux.
Alors, de source, ça, c'est.
Ce n'est pas du plastique.
Ah, c'est notre matière.
Donc, bon, bref, ensuite, ouais, qu'il y a un troisième épisode, c'est sûr que vu la cata du 2, enfin, moi, je trouve que c'était une cata. D'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, les producteurs du jeu blâmaient plus ou moins. Le Ange des Ténèbres,
okay.
Qui était mal accueilli en disant ouais, mais attendez, les gens ils viennent pas à notre film parce que il est pourri.
Bah voyons,
c'est n'importe quoi, évidemment.
Elle a demandé trop cher, Angelina Jolie. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas.
Non, elle est plus si jeune que ça, plus si svelte et compagnie. Et puis je crois qu'elle a envie de passer un petit peu à autre chose. Et puis surtout, il y a plein de nouvelles starlettes qui rêveraient d'être Lara Croft.
Qui se bousculent au portillon.
Et que pour faire un reboot. Mais j'en sais rien à la fois. C'est des rumeurs qu'on lit.
Non, mais toi qui es copain avec Lara Croft.
Non, mais j'ai personne qui l'a rencontré. Mais comment elle s'appelle l'actrice qui était dans Tron?
Ah, je sais plus, moi je l'appelle toujours numéro 13 maintenant.
Alors, cette nana-là, il y a eu des rumeurs autour de Megan Fox, donc de cette jeune demoiselle aussi. A priori, ce serait peut-être une troisième encore, donc à suivre.
C'est comme à l'époque, avant que le premier film soit lancé, il y avait des rumeurs autour de Sandra Bullock, Liz Hurley.
Sandra Bullock, je trouve qu'elle l'aurait pas fait mal. Hein.
Faut voir, je la vois pas trop ultra sportive, moi, Sandra Bullock, mais bon, pourquoi pas.
J'aimais bien Liz Hurley, moi. Elle est britannique en plus.
Allez, à suivre. Tomb Raider, Lara Croft, c'est aussi bien évidemment de nombreux produits dérivés. On l'a découverte dans de nombreuses publicités, certaines qui sont restées un peu dans la légende, comme les publicités Seat, où il y avait quasiment une cinématique qui était faite dédiée à Lara Croft.
Bah, les publicités Seat étaient super intéressantes quand même, parce que t'en avais plusieurs, dédiées à chaque couleur de voiture. Et tu te retrouvais avec un personnage virtuel qui se retrouvait à faire de la publicité pour un produit réel. C'était fait par Ex Machina, c'était une boîte française si je me souviens bien. Et je me souviens d'un culture pub de 99 où ils avaient montré une fin exclusive qui n'était pas passée, mais elle n'était pas de très bon goût. et je suis étonné d'ailleurs qu'il l'ait réalisé. C'est-à-dire que dans le clip, tu vois Lara, bon, qui fait plein de trucs différents, qui est poursuivie, etc., qui se barre. Mais à la fin, elle croise 5 surfeurs. Et ces 5 surfeurs, elle s'arrête à côté.
Ah oui,
et puis elle fait « Montez, j'ai peur toute seule ouais. », tu sais, avec un petit sourire. Et donc voilà, c'est tout. C'est genre pour montrer qu'il y avait de la place. Donc tu vois les planches de surf sur le truc et puis elle barre. Et dans, une, dans la fin exclusive, tu vois la voiture ouais. arrêtée. Avec 4 des 5 surfeurs qui sont à l'extérieur qui regardent dans la voiture pendant que la voiture bouge. Ouais. Genre elle est en train de se faire prendre par un surfeur. C'est quand même, ce qui est quand même assez incroyable quoi.
Et
c'est,
il va avoir trop de temps, ils l'ont fait juste pour déconner.
Soit c'est Ex Machina qui s'est dit ouais, on va se taper un délire et puis ça a été leaké. Mm. Soit ça a été possiblement. Tu vois, ils se sont dit peut-être qu'on peut, on peut le truc, puis finalement ils sont venus en arrière, j'en sais rien.
On ne le saura peut-être jamais. Sinon, il y a eu aussi beaucoup d'autres produits, bien sûr, des bandes dessinées, je ne sais plus parler. Elle a affronté Witchblade aussi.
Ouais, il y a eu des crossovers.
Dark Irons, voilà, c'est le mot que je cherchais. Crossover.
Ouais,
je suis fatigué.
Au niveau de la BD, ça n'a pas été très très probant, je trouve. Ouais. La Dark Aeons, la BD qui a été faite, la BD française, je crois d'ailleurs, était correcte, mais bon, sans plus quoi. C'était, ça a pas marqué les esprits. Puis le crossover Witchblade, bon, j'en ai lu quelques-uns. Ouais, bon.
Ça ne te laissera pas un souvenir impérissable.
Non, mais c'est toujours difficile d'intégrer des personnages qui sont censés être réalistes, mm-hmm. avec un truc plus ou moins fantastique, super-héros. Bon, il y a Batman qui s'en sort parce que bon, c'est Batman, et puis voilà, mais voilà quoi.
Et puis Lara Croft, tu le parlais tout à l'heure, du passage du virtuel au réel, et ben quand même, sur des écrans géants, dans des stades mondiaux, elle a été en concert avec U2.
Ouais, dans le Pop Mart World Tour 97, je crois. C'est ça, ouais. On la voit pendant une chanson qui se tourne vers le public, qui tire avec ses Uzi. Enfin bon, mm-hmm. c'était un petit peu.
Mais alors, c'est quoi ça? C'est juste un coup marketing de la part d'Eidos, ou c'est U2 authentiquement qui appréciait le personnage?
Je pense que U2 appréciait le personnage, puisqu'ils ont quand même fait la chanson du premier film. Mm. Ils ont fait une chanson pour le premier film. Qui s'appelait. Elevation, voilà, c'est dans le clip Elevation. Et dans le clip, tu vois le guitariste The Edge qui est intégré en fait dans le film. Donc ils doivent bien aimer quoi, ouais. Enfin, tu vois, ils se forcent pas, hein, j'imagine. Après, t'as eu Korn,
voilà aussi.
Korn qui a fait ça, Did My Time pour Le Berceau de la Vie.
Ouais.
Et donc pareil, t'avais des doubles maléfiques. Le clip était pas mal. Tu voyais Angelina Jolie en tenue blanche moulante. Pas mal, sympa. et donc voilà, enfin bon, bref, ouais, le U2, c'est en tout cas, oui, c'était lié à Tomb Raider. Je crois que Bono, c'était Bono la bonne, tu sais, Lara, Bono la bonne.
Très bien. Il y a eu plein de produits dérivés, bien évidemment, des boutiques entières ouvertes avec des t-shirts, des serviettes de bain,
ouais, j'ai noté.
Des slips. Fais-nous rêver. Quels sont les trucs les plus hallucinants?
Attention. Bon, il n'y a pas grand-chose finalement.
Ah ouais?
Chaise pliante, gel douche Tomb Raider.
Non.
Si. Sous-vêtements, Lara. Il y avait des sous-vêtements Lara Croft, coque de téléphone portable, lunettes de soleil, casque de moto.
Oh là là.
Et
un truc
que j'aime bien qui rappelle un petit peu ses racines bourgeoises, le club de golf.
C'est pas mal ça.
Même si finalement on la voit jamais golfer.
Non mais bon, tu l'imagines bien le faire.
Effectivement. Chris.
Oui.
Dans les yeux je te regarde.
Ouais.
C'est l'instant un petit peu émotion, c'est l'instant. Ouais. Sexy, puisque on le sait tous, un patch est sorti permettant de jouer avec Lara Croft nu. Et ça, tu peux taper encore aujourd'hui sur Google le nombre de millions de requêtes qui ont été faites là-dessus. Tout le monde voulait jouer, enfin tout le monde,
non,
les esprits
le
déplacés voulaient voir Lara nue dans leur jeu. Alors,
et Chris, parce que c'est son boulot.
Qu'est-ce qui se passait exactement?
Et ben, figurez-vous que ce fameux patch Nude Raider, je l'ai jamais installé. C'est même pas parce que j'ai pas pensé, j'ai pas eu le temps, j'en ai pas eu l'occasion ni l'utilité. Mm-hmm. J'ai juste vu des screens ou les artworks détournés, évidemment, des mecs qui s'amusent à foutre les seins nus. Bah, le problème, c'est que ça pète pas très loin quand même, quoi. Tu vois, c'est sympa de voir ta Lara à poil et puis t'as manipulé, mais bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre, franchement. C'est pour ça que je trouve toujours ça assez hallucinant, le fait que ça fasse un buzz assez incroyable, surtout au tout début. C'était vraiment, ouais, il y a un code. Non, le truc au début, c'était, il y a un code caché dans le jeu, si tu le fais,
oui,
t'as Lara qui est toute nue.
Oui. C'était ça la légende urbaine initiale.
En fait, oui, mais non, ça n'existe pas ce code. Après, bah, tu as eu des patchs sur PC. Bon, voilà, super. Tu cherchais une new patch, Tomb Raider, tu pouvais trouver, tu te faisais un peu chier pour l'installer. Voilà. Aucun intérêt.
Très bien. Par contre, ce qui a de l'intérêt, c'est de souligner quand même que c'est Françoise Cadol qui, depuis le tout début, incarne à la voix de Lara, et une voix très élégante finalement.
Françoise Cadol qui fait un super boulot sur le doublage de Lara Croft, qui a une voix super. J'ai écouté aussi la voix qu'elle a en original en anglais. Mm-hmm. Bon, elle est bien parce que t'as le côté britannique, donc c'est toujours bien d'avoir le côté britannique un petit peu machin, donc ça rajoute une petite dimension au personnage. Mais en français, honnêtement, je trouve que sa voix est super bien, et il faut pas oublier que Françoise Cadol double aussi, je crois, Angelina Jolie. Mm-hmm. Donc tu vois, elle a bouclé. Mm-hmm. Et elle a aussi doublé d'autres personnages de jeux vidéo, dont Madison dans Heavy Rain par exemple.
Ah, d'accord.
Ou Kate dans Siberia. Donc non, elle fait bien son boulot, elle. C'est une bonne.
Et ça apporte un vrai cachet comme ça cette Lara très très élégante, sophistiquée, très aristocratique. On va conclure aussi avec quelque chose d'intéressant quand même et de beau, un beau signal envoyé par Eidos en avril 2002, où les vêtements Lara Croft qui étaient mis en vente, l'argent était reversé à l'UNICEF. Donc se servir un peu de la médiatisation autour du personnage pour des causes un petit peu plus nobles.
Ouais, c'était la tenue portée par Nell McAndrew à l'époque, qui a été mise en vente. Elle a été revendue 4400 livres, c'est ça, à l'époque, ce qui est quand même un beau paquet de flouze. Et le mec qui l'a acheté, je me souviens, à l'époque, disait bon, maintenant j'ai plus qu'à trouver la copine qui pourra le porter, quoi.
Très bien.
J'espère que depuis le temps, il l'a trouvé.
Enfin, je sais pas s'il commence à draguer comme ça, je suis pas sûr qu'il la trouve. Vous me le dire en deuxième phase, en deuxième temps. Bien évidemment, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur la saga Tomb Raider, qui est une saga, vous l'aurez vu, riche. Celle qui fait partie des grandes sagas. Et pour faire une grande saga, il faut un zénith, une apocalypse, une déchéance et un regain d'intérêt avec une reprise de qualité. Pour conclure, toi, qu'est-ce que tu. Comment tu verrais ce grand tout qu'est Tomb Raider aujourd'hui ?
Bah écoute, c'est un peu ce que tu viens de dire. Effectivement, il y a eu un succès, on va dire, inespéré au début, avec de très bonnes idées au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère, d'un jeu qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Bon, il y a eu après ce qu'on sait, la période, on se flingue un petit peu sur la longueur. Ça a repris bien du poil de la bête avec Crystal Dynamics. Alors maintenant, c'est ce qu'on regardait au niveau des chiffres de vente.
C'est pas stratosphérique. Non.
Voilà, ce qui est un peu dommage parce que bon, les jeux sont bons. Enfin, moi je trouve que ça vaut vraiment le coup. Voilà. Hein. Et je sais pas trop ce qu'ils vont faire là, avec le reboot. Je suis curieux de voir. Je le sens bien.
Moi aussi.
Parce qu'ils sont bons. Hein, de toute façon, Crystal Dynamics.
Mais c'est marrant aussi de voir qu'un personnage comme Lara Croft, après toutes ses tribulations et ses hauts et ses bas, j'ai l'impression qu'il a jamais été ringard en fait. Alors qu'il y a beaucoup d'autres personnages. Très connus dans le jeu vidéo ou ailleurs, quand ils ont des misères comme ça avec certains épisodes, ils ont tendance à devenir has-been. Mais elle, j'ai pas eu la sensation qu'elle l'ait jamais été. Ça fait toujours plaisir de retrouver Lara, quoi.
Ouais, mais en même temps, il y a quand même un petit phénomène de lassitude.
Il y a moins d'attente.
Ça reste une jolie fille. Il y a pas de, comme t'as pas de, tu vois, un Mario par exemple, c'est ringard. Mario, il est ringard. Oui. Sauf que les jeux dans lesquels il se trouve sont tellement souvent marquants, où les genres changent aussi. Mm. On se retrouve dans un genre toujours le même, donc ce qui est pas plus mal. Hein. Moi, Tomb Raider pour moi, c'est voilà, ça doit être ça. Que bon, après, on verra. Je pense que le reboot va être très très intéressant à ce niveau-là.
Julo.
Il y a juste un truc que je voulais dire aussi, c'est que j'ai quand même l'impression que ça s'est joué à un épisode, en fait, à un épisode près, le succès de Tomb Raider, parce qu'effectivement, le dernier épisode d'Eidos, donc c'était. De Core Design, pardon. C'était L'Ange des Ténèbres, c'est ça ?
Tout à fait.
Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait une attente, mais folle, autour de ce jeu. Mm. C'était juste dingue. Et il a déçu tellement au moment où justement on avait besoin d'un retour, que c'est là que pour moi tout s'est joué. Et si c'était débarrassé entre guillemets de Core Design avant cet épisode, et que dès celui-là on avait eu affaire à un jeu Crystal Dynamics, je pense qu'on aurait vécu le grand retour de Lara Croft et de Tomb Raider.
Moi, à mon avis, ça s'est joué avant. On va dire que ça, c'est la deuxième lame qui coupe le poil. Mais la première lame, c'était vraiment après Tomb Raider 3. Je pense que le 4 déjà, ça commençait à baisser, en tout cas au niveau de l'intérêt des gens. Le 5, ça a enfoncé le clou, et le 6, bon, bah voilà, c'était une nouvelle génération qui devait faire quelque chose, et finalement, ça n'a pas fait grand chose. Donc, on a quand même perdu beaucoup de temps.
Eh bien, on verra ce que l'avenir nous réservera du côté de Tomb Raider d'ici dans les deux années à venir. Bien évidemment, vous aurez compris que nous n'avons pas parlé des épisodes annexes. On s'est concentré sur la série canonique, hein, donc les épisodes qui sont sortis, certains sur Game Boy Color, d'autres sur téléphone portable, et bien sûr, très récemment, de l'épisode Guardian of Light qu'on a beaucoup apprécié à Gameblog.
Et qui a effectivement rien à voir avec.
Qui n'est pas un Tomb Raider d'ailleurs, parce qu'il n'a pas de Tomb Raider dans le titre.
Non,
c'est
Lara Croft.
And the Guardian of Light, oui. Voilà, c'est un très très bon jeu.
On vous invite à aller voir sa critique sur Gameblog.fr, effectivement. Un titre un petit peu différent. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire sur cette série à la fois mythique avec ses hauts et ses bas. Merci beaucoup, Chris. De nous avoir accompagné dans cette belle aventure en espèce de...
Il avait mis les couleurs et tout, c'est bien.
Exactement. Il était vert sur vert. On espère te revoir très bientôt pour d'autres histoires comme ça, d'autres sagas peut-être, puisqu'il n'y a pas que Tomb Raider qui occupe ta vie.
Non, mais bon, c'est sûr que des séries que j'ai suivies d'aussi près, aussi longtemps, il n'y en a pas tant que ça non plus. Hein. On a fait Final Fantasy déjà, mais bon, oui, on trouvera sûrement d'autres sujets.
Et ben, ce sera avec plaisir en tout cas. Merci Julo, merci Raan, merci Poufi, merci à vous surtout de nous avoir suivis, écoutés ou regardés avec la vidéo pour les membres premium. Maintenant, vous dans les forums, eh bien, vous pouvez commenter, nous donner votre avis, votre passion ou votre haine de Lara Croft. Qu'en pensez-vous hier, aujourd'hui et peut-être aussi demain? Eh bien, c'est à vous de nous le dire. On se donne rendez-vous nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Gameblog sera bien évidemment présent et fidèle au rendez-vous. Portez-vous bien et surtout, jouez bien. À la semaine prochaine. Ciao.
Salut.
Ciao.